et de chercher l'évangile de Luc au chapitre 17. Seigneur, merci pour l'occasion que nous avons d'ouvrir ta parole encore ce dimanche. Merci parce que nous faisons ici, nous autres, des grands, comme on dit, des adultes. Et merci parce que les enfants peuvent le faire également, à leur façon, à leur niveau, à leur manière, dans le moment qu'ils ont maintenant avec la monitrice. Bénis-les, Seigneur. Prends soin de chacun d'eux, des enfants. Prends soin aussi de nous, comme tu as dit qu'il nous fallait également un cœur d'enfant pour recevoir les choses que tu as préparées pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez, dans des fois, on entend parler des histoires, enfin, news, dans les nouvelles, que voilà, il y a tel tableau qui a été trouvé dans un vide-grenier, dans une, on s'aperçoit un jour qu'il avait une très grande valeur, ce tableau, mais il était là, personne n'y faisait attention, et en fait, on redécouvre sa valeur. Vous avez peut-être vu le Seigneur des Anneaux. À un moment, je sais qu'ils sont dans leur périple là. Ils sont face avec des grands géants là, des trolls. Et quand ils sont dans leur caverne, ils découvrent là des épées qui semblent vieilles, qui semblent très usagées. Et puis ils s'aperçoivent que ce sont des épées de grande valeur qui ne méritent qu'à être nettoyées. Et la parole de Dieu est ainsi quelque chose qu'on est invité à redécouvrir dimanche après dimanche. Et même s'il y a des histoires qu'on a l'impression de connaître, est-ce qu'on les connaît vraiment? Est-ce qu'on ne les a pas oubliées? Et est-ce que Dieu peut pas nous parler encore à travers elles aujourd'hui? Alors on va lire l'évangile de Luc au verset 17, verset 1 à 10. Luc chapitre 17, verset 1 à 10, 10 petits versets, mais avec 4 enseignements. Jésus dit à ses disciples, je lis dans la Nouvelle Bible Seconde, « Il est impossible qu'il n'y ait pas de cause de chute. » Mais quel malheur pour celui par qui cela arrive. Il serait avantageux pour lui qu'on lui attache autour du cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, s'il doit causer la chute à l'un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il change radicalement, s'il se repent, pardonne-lui. S'il pêche contre toi 7 fois, 7 fois par jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je vais changer radicalement, je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Donne-nous plus de foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier « Déracine-toi de là et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait ». Qui de vous, s'il a un esclave qui laboure ou fait paître des troupeaux, lui dira quand il rentre des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. » Sera-t-il gré à cet esclave d'avoir fait ce qui lui était pas ordonné? De même, vous aussi, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des esclaves inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Alors, 4 enseignements ici qui peuvent être très bien pris indépendamment les uns des autres. Mais bon, ils sont à la suite les uns des autres. Et il y a un petit mot de liaison quand même qui les rattache à la parabole précédente. Sur Lazare et sur le riche, qu'on avait vu la dernière fois. Donc je vous propose de les prendre ensemble et dans le contexte de la fin du chapitre 16, du chapitre 16 tout entier même. Et donc le titre qui va chapeauter l'ensemble de ces quatre enseignements, et voici le titre que j'ai choisi. Le pardon permet de vivre en juste dans un monde injuste. Le pardon pour vivre en juste dans un monde injuste. Alors il est question, premièrement, dans les trois premiers versets, d'un scandale. Et il dit à ses disciples, donc ça fait le lien avec ce qui précède, et il dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'y ait pas de cause de chute. Mais quel malheur pour celui que cela arrive, pas de cause de scandale. Il serait avantageux pour lui qu'on lui attache autour du cou une meule de moulin. Donc ces meules, une pierre de moulin, ces pierres qu'on se servait pour moudre le grain qu'on pouvait avoir dans les maisons ou dans les moulins qui tournaient avec des animaux, et qu'on le jette à la mer s'il doit causer la chute de l'un de ses petits. Alors nous sommes dans le contexte juste avant des richesses injustes, avec cette parabole du chapitre 16 qui indiquait cet intendant qui perdait sa place et qui faisait des rabais à tous les débiteurs, tous les débiteurs du maître, de son maître, pour qu'il le reçoive bien quand il serait au chômage. Et donc Jésus donnait cette instruction, moi je vous dis de vous faire des amis avec les richesses injustes. Et de là, les pharisiens qui aimaient l'argent, qui aimaient les richesses, se sont mis à ricaner, à rire, à se moquer de lui. Et donc le Seigneur a enchaîné avec la parabole de Lazare et du riche. Et donc on avait pu constater avec Jésus que les riches et les pauvres se croisent, hélas sans se rencontrer bien souvent, mais Dieu rendra justice un jour, et ce jour-là il sera trop tard pour changer quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu pour pouvoir changer. Alors, ces petits, où est-ce qu'ils sont dans notre contexte? Le fils cadet, justement, il y avait le fils prodigue à cette histoire où on a un fils qui demande l'héritage, la moitié de l'héritage à son père, qui part, qui vit dans la débauche, qui dépense tout, qui se retrouve sans un sou, et qui, eh bien, prend la décision de revenir vers son père, il se repent, et il demande à son père de l'accueillir comme un de ses serviteurs. Et le père l'accueille comme son fils. Et le fils aîné est là, et il voit cela, et il n'est pas d'accord du tout que son père passe l'éponge comme cela sur son fils cadet qui a dépensé la moitié de sa fortune. Le fils cadet, on peut être tenté de l'imiter, de faire comme lui, de brûler sa jeunesse. Et puis l'intendant malhonnête, on peut être tenté par l'infidélité, on peut être tenté par la magouille, en le voyant faire, voilà, il réussit, il s'en tire bien, pourquoi moi je ne ferais pas pareil? Et ce riche qui mène une joyeuse vie, on peut être tenté d'abandonner la crainte de Dieu, de oublier que c'est lui qui a fait le pauvre, c'est lui qui a fait le riche, et de penser égoïstement, moi, je suis riche, tant mieux. Lui, il est pauvre, tant pis. C'est comme ça, c'est la vie, j'en profite. Là, quand j'avais parlé de ce message, j'ai fait une faute par rapport à... J'ai malmené dans ma présentation ce qui concerne la souveraineté de Dieu sur le pauvre comme sur le riche. Et moi aussi, je peux être dans ce contexte. On peut être facilement, et j'ai pu être facilement, une pierre d'achoppement pour quelqu'un en ne présentant pas droitement comme il convenait la parole de Dieu. Les occasions de chute sont nombreuses. Elles nous entourent, elles sont partout. Il y a une origine à tout cela. C'est le premier des scandales. Vous le savez, il s'est passé dans le jardin d'Éden, quand le serpent, inspiré par Satan, a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et qui lui a chuchoté l'idée que si Dieu ne lui donnait pas, c'est qu'il y avait dans le fruit de cet arbre quelque chose que Dieu ne voulait pas qu'il ait, quelque chose qu'il gardait pour lui en quelque sorte. Dieu ne serait pas bon complètement. Et on sait ce qui s'est passé. Le péché est entré dans l'humanité. Impossible. Impossible qu'il n'y ait pas de scandale, qu'il n'y ait pas de cause de chute. Le péché est omniprésent, il est partout, il a colonisé toute l'humanité par Adam et par ses descendants. C'est comme un cercle vicieux. On subit le péché, on subit le mal de la part de nos concitoyens, de notre compatriote, et nous, on a tendance à le reproduire également, à en quelque sorte le renvoyer, le refaire, le rendre, retourner, de rendre le mal pour le mal. Et c'est quelque chose qui est attaché à la nature humaine que de procéder comme cela. Un cercle vicieux, le péché qui s'entretient lui-même. On a tellement d'histoires dans les actualités actuellement, des personnes qui ont, par exemple, quand ils étaient jeunes, ils ont eu on a abusé d'eux, et ils vont grandir, etc., et ils vont avoir tendance à reproduire la même chose envers les autres. Et c'est bien malheureux. C'est bien malheureux. Le mot malheur ici n'est pas le mot malheur d'une malédiction, mais c'est le malheur de constater quelque chose qui n'est pas bon du tout, qui va faire souffrir, qui est dommageable. Hein. Comme on dit, il est arrivé un malheur quelque part, pour dire il est arrivé quelque chose de grave, un accident. C'est dans ce sens-là qu'il est ce mot malheur. Malheur pour celui à qui cela arrive. Paul exprime de cette façon ce cercle vicieux du péché. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas, misérable que je suis. Mais Dieu propose le pardon, la grâce, par le sacrifice de son don, de son Fils Jésus-Christ, ce dont on s'est souvenu en prenant le repas du Seigneur à l'instant. Quel malheur! Il serait plus avantageux qu'on lui attache autour du cou une pierre de moulin, qu'on le jette à la mer. Il y a là-dedans quand même la responsabilité de l'homme. Tomber dans le péché est grave, le péché fait du mal, il cause des souffrances, et faire tomber dans le péché l'est encore plus, bien sûr. Mais quelqu'un dira peut-être, puisse être tenu responsable quand on m'a tendu un piège, puis-je être tenu responsable du mal que je fais quand moi on m'a fait du mal précédemment de la même manière. Et Dieu nous présente le scandale du pardon. Le drame donc, c'est d'être sollicité à faire le mal et de trébucher et de céder. Mais Dieu, quand il nous met une sollicitation à faire le bien, quelle est notre réaction? On a dans ce texte un autre scandale, dans le fils prodigue, le scandale de ce père qui accueille ainsi le fils, qui ne lui fait aucun reproche, qui le prend tel qu'il est, qui lui rend immédiatement tout ce qu'il avait, toute sa dignité de fils. C'était là un vrai scandale pour son frère aîné. Et peut-être aussi pour bien des lecteurs, et peut-être pour nous aussi, là, on trouve là un sujet de scandale. Comment considérer la bonté de Dieu? Et Jésus-Christ, le Messie, est mort sur la croix. Et ça aussi, on peut trouver là un scandale. L'offrande, la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, la manifestation de l'amour ultime. Quelle est notre réaction par rapport à cela? Est-ce qu'on va l'imiter ou est-ce qu'on va le rejeter? C'est le miroir du problème qu'on a avec le péché. On est invité, bien sûr, Dieu nous invite à rejeter le péché et à imiter et à recevoir le bien et à le prendre comme exemple, le bien, pour l'imiter et ne pas imiter le mal. Et Dieu place devant nous cette histoire de ce Père qui pardonne, et il place également devant nous son Fils, le scandale de la croix. Le Messie mourant en croix pour nous sauver. Prenez garde à vous-même, nous dit le Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons de Jésus? C'est la bonne question. C'est vrai, il y a tellement de sollicitations à faire le mal, tellement de tentations qui nous entourent. Mais qu'est-ce que nous faisons de Jésus? Qu'est-ce que nous faisons de sa sollicitation à lui, de la sollicitation qu'il nous adresse? Les versets suivants nous parlent du pardon. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il change radicalement, pardonne-lui. S'il pêche contre toi 7 fois par jour, 7 fois il revient à toi en disant « Je vais changer, je me repens », tu lui pardonneras. Alors le péché est grave. Dans notre contexte, on a vu la gravité de la corruption, du culte des richesses. Les richesses injustes élèvent injustement les uns, et les richesses injustes abaissent injustement les autres. Et cela aboutit à la situation du riche et de Lazare. Un maxi scandale de nos jours, on trouverait ça tellement scandaleux qu'une telle chose puisse se produire. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu, nous a rappelé Jésus juste avant. Si quelqu'un a péché, si ton frère a péché, reprends-le. Il est sûr que je ne sais pas si Lazare avait été repris ou pas. Mais il y a là un commandement, en tout cas. S'il a péché à la face des hommes et à la face de Dieu, reprends-le. Ces choses-là sont réglées par les tribunaux humains en ce qui concerne les affaires de la vie séculière, ou dans l'Église, il y a un collège d'anciens, il y a l'Assemblée également qui statue sur ces cas de péché manifeste. Si on devait faire ça à titre personnel, vous savez, le Seigneur a dit, on a souvent des poutres dans les yeux, et on voit des problèmes chez les autres qu'on a soi-même, et c'est quelque chose qui est bien délicat à faire. Donc Dieu a permis qu'il y ait des autorités, qu'il y ait des tribunaux, qu'il y ait des juges dans le monde séculier et également dans l'Église pour ce qui concerne les choses qui concernent l'Église. Mais il est dit également qu'il a péché contre toi. Et là, c'est quelque chose de différent, parce que quand on pêche contre nous-mêmes, c'est à nous qu'on fait du mal. Et le mal, ça se discute pas. On le ressent dans notre chair, on le ressent dans notre âme. On a mal, on souffre, et c'est une réalité incontournable. S'il a péché contre toi, dans les deux cas, reprends-le. reprend le frère, reprend la sœur. C'est parfois difficile de le faire, mais c'est un commandement du Seigneur. Et comme je l'ai dit, il y a les tribunaux dans le monde, il y a des autorités dans les églises pour faire ce travail chaque fois que cela est nécessaire. C'est pas facile. Il faut le faire. Et si on a été blessé personnellement par quelqu'un, par un frère, par une sœur, et là on est bien dans ce contexte toujours du peuple de Dieu, eh bien il faut, c'est un devoir de le dire, de le manifester. Et là, normalement, quand tout se passe bien, la personne demande pardon et on a, s'il se repent, tu dois pardonner. L'objectif d'exposer le péché, c'est d'amener à la repentance qui conduit au pardon. Dans les offenses qui sont pas portées contre nous-mêmes, donc, je l'ai dit, il y a des institutions qui sont là, et dans l'offense personnelle, par contre, c'est difficile d'avoir un vrai détachement, tant ces choses peuvent être profondément en nous-mêmes. Mais le Seigneur nous enseigne quand même à pardonner, et il nous a enseigné cette prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et donc, le devoir que nous avons de pardonner est bien réel. Le pardon libère celui qui l'accorde, ceux qui en ont fait, si un jour vous avez fait cette expérience d'avoir pardonné à quelqu'un, combien c'est une libération. Et donc, il ne faut pas s'en priver, même si c'est des fois un cheminement qui est bien lent et bien douloureux. Dans tous les cas, nous avons obligation de pardonner à celui qui le demande, à celui qui se repent, à celui qui demande pardon. Sept fois. Alors le mot sept, c'est le mot de la complétude, de quelque chose qui est complet. Comment exprimer ça de pécher sept fois dans la même journée contre une même personne? On a une expression aujourd'hui, quand cette expression, c'est on dit « Ah, c'est la totale !» Là, c'est la totale. C'est vraiment la complétude de tout ce qui peut se faire. Mais autant de péchés, autant de repentance, autant de pardon. Et le pardon doit avoir toujours le dernier mot. Et ça va être pour nous un exercice de patience et de persévérance, pour celui qui est offensé, que de pardonner. Prends patience et je te paierai tout. Ce qui se passe, je pense, c'est que souvent, l'offense, la repentance n'est pas en mesure avec l'offense. Et la personne qui a fait la faute, elle ne mesure pas le mal qu'elle a fait. Et pour lui, c'est rien. Et puis, donc, pardonne-moi. Et mais ça rentre pas tellement comme quelque chose de vraiment grave. Et voilà, et ça se reproduit, et ça se reproduit, et ça se reproduit encore. Et c'est là. Et il faut, cependant, dit Jésus, garder la patience et pardonner. Souvent, la repentance est bien là, mais elle n'est pas là à hauteur de l'offense, de ce qui nous paraît à nous. Mais le pardon doit avoir un dernier mot. Pardonne-nous et pardonnons parce que nous sommes nous-mêmes des pécheurs. Dieu nous a pardonnés. Et pour que nous ne devions pas nous non plus, nous aussi une pierre d'achoppement pour les autres en entretenant de la rancœur, en entretenant dans le cœur de la frustration, des racines d'amertume. Comme dit la parole de Dieu, il appelle ça des racines d'amertume, en refusant le pardon, que nous devions, nous aussi, donc, des sources de pour faire tomber d'autres personnes. Quand ils nous voient, voilà, ah, c'est ça un chrétien. Ah ben moi, voilà, j'ai fait mon opinion sur les chrétiens. Le pardon doit avoir le dernier mot. Prenez garde à vous-même, dit la parole de Dieu, dit le Seigneur. Et bien sûr, c'est un engagement également, si on a offensé quelqu'un, à lui demander pardon, à se repentir, à prendre conscience qu'on peut faire du mal. Et voilà, c'est pas rien que de blesser un frère, que de blesser une sœur, c'est quelque chose de sérieux. Il faut le prendre toujours avec la plus grande considération. Le pardon doit avoir le dernier mot. Et le Seigneur enchaîne sur la foi. Les apôtres dirent au Seigneur, donne-nous plus de foi. Et le Seigneur répond, si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, de s'énever, vous diriez à ce mûrier ou à ce sycomore, déracine-toi de l'eau et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Hein, vous imaginez un arbre qui se déracine lui-même et qui va se planter, et non pas dans la bonne terre ou autre, il va se planter dans la mer, au milieu de la mer. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Le Seigneur a utilisé la même image avec la montagne. Cette montagne, voilà, elle va se déplacer si tu as la foi. Alors, je ne pense pas que ce soit la question de la montagne ou de l'arbre. Je pense que le Seigneur, il prend l'image de ce qu'il a sous les yeux et il devait y avoir là un mûrier, comme dans le cas de la montagne, il venait juste de descendre du monde de la transfiguration. Ils avaient une montagne sous les yeux. C'est juste une image marquante que veut donner le Seigneur ici. En tout cas, c'est les apôtres qui posent la question ici. C'est l'élite des disciples, en quelque sorte, qui ont besoin de foi. Peut-être est-ce par rapport à cette commandement du Seigneur que de pardonner cette fois dans la même journée quelqu'un qui cette fois vient nous faire du tort. Peut-être trouve-t-il quelque chose qui est too much, trop, pour que ce soit faisable. Donne-nous plus de foi, ajoute-nous de la foi, rajoute par rapport à la foi que nous avons c'est pas comme ça que ça marche, la foi, le Seigneur l'explique, hein. L'image de cette toute petite graine, hein, la foi, une petite foi suffit à faire de grandes choses. La foi, c'est surtout la personne dans laquelle on place la foi, on dit, et là, il s'adresse au Seigneur, et c'est le Seigneur qui leur répond. Placez la foi, peut-être elle est petite, mais elle est placée dans un grand Seigneur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Revenir vers son père pouvait sembler peut-être une montagne pour notre fils cadet. Mais il avait la foi que son père, il savait, mon père est un homme bon. Mon père est un homme bon. Et le retour vers Dieu, pour nous, c'est toujours savoir que Dieu est bon, on peut toujours aller vers lui, on peut toujours aller lui demander pardon, il est bon. Pardonner à son frère était une montagne pour le fils aîné de ce scandale qu'il avait fait, que de partir dilapider la moitié de la fortune de son père. On ne sait pas s'il s'est repenti et s'il a pardonné à son frère. L'histoire ne le dit pas, mais on a là devant lui quelque chose qui pouvait ressembler à une grande montagne. Une petite foi est suffisante, cependant, pour accorder un grand pardon. Se savoir soi-même gracieusement pardonné par Dieu permet d'accorder le pardon à notre retour. Et ainsi, le cercle vicieux du mal et du péché se trouve brisé. Cela permet de ne pas rendre le mal pour le mal. Le cercle du péché se brise là. Et c'est salutaire pour nous et pour l'humanité entière. La foi, une petite foi, est suffisante pour accorder un grand pardon. Et le Seigneur continue avec l'obéissance. Les apôtres dirent au Seigneur, c'est le Seigneur qui continue son discours. Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Verset 7. Qui de vous, s'il a un esclave qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira quand il rentre des champs, viens tout de suite te mettre à table, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi un dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. Serait-il gré à cet esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des esclaves inutiles, nous avons fait que ce que nous devions faire. La position du chrétien et même de l'apôtre dans ce texte-là, c'est la position de serviteur ou esclave. C'est le mot doulos dans le grec et qui bien désigne bien celui qui est esclave, hein, l'esclave du Seigneur. Alors, on est peut-être surpris par cette expression serviteur inutile, ici un esclave inutile. Bon, dans l'évangile de Luc, il y a toujours de grands contrastes comme ça qui apparaissent à nous, des choses qui sont vraiment marquantes, et je crois que des fois ça permet de bien s'en souvenir, au moins, bien amplifier comme ça. On est dans le contexte de l'Antiquité, et un esclave avait une valeur marchande, et il n'est pas inutile dans le sens qu'il n'a plus aucune valeur, mais il n'est pas non plus indispensable. Quelqu'un d'autre peut faire très bien le travail qu'il fait et il n'est pas indispensable. Alors peut-être vous avez une Bible qui a préféré la traduction un serviteur ordinaire à serviteur inutile, que ce soit pas là une pierre d'achoppement que la traduction de ce mot. Il faut suffit de comprendre le sens. Et le maître, c'est le maître, et le serviteur, c'est le serviteur. Et a priori, le serviteur, le maître n'est pas redevable au serviteur. Pardonner, dans notre contexte, est un acte ordinaire d'obéissance pour celui qui a la foi. Alors, on peut ne pas attraper, c'est fait pour ne pas attraper la grosse tête par rapport à tout ce que l'on peut faire en servant le Seigneur, toutes les réussites qu'on peut avoir, de ne pas se sentir soudainement comme important et comme que Dieu lui-même devrait nous remercier pour ce qu'on fait. Mais ici, si on s'élève à nos propres yeux, c'est quelque chose qui est abominable devant Dieu parce que Dieu seul est élevé. Donc il y a cet enseignement en général, mais les commandements dont il est question dans notre section ici, le Seigneur il a parlé de se repentir. Et il a parlé également de pardonner. Ce sont ces deux commandements dont il est question ici. Et donc, si on accorde le pardon à quelqu'un, ça ne va pas faire de nous un héros. Ça ne va pas faire de nous un super chrétien. Non. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, dit Matthieu 6, 15. Le pardon est quelque chose de vital pour nous. C'est le fondement du christianisme, c'est la base, c'est capital. Nous savons de plus que le pardon est puissant pour vivre en juste dans un monde injuste. Donc, ne nous attendons pas à quelque chose d'extraordinaire. Si nous pardonnons, c'est les actes ordinaires de la piété chrétienne que de pardonner chaque fois qu'on nous demande de le faire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas pardonner sans qu'on nous demande le pardon. Le Seigneur, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, si vous devez pardonner, si quelqu'un vous demande pardon, mais on peut aussi pardonner sans qu'on nous demande pardon. C'est quelque chose, bien sûr, une disposition qu'il faut cultiver. Alors, en résumé, le monde injuste dans lequel nous évoluons est dangereux. Il y a toujours le risque de tomber dans le péché. Et un plus grand risque encore est de faire tomber quelqu'un dans le péché. Et ça peut arriver à chacun de nous. Alors pardonnons, repentons-nous si nous avons péché, pardonnons si nous sommes celui qui sommes du côté de la partie offensée. Repentance et pardon doivent toujours avoir le dernier mot. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, a dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. La foi que nous avons reçue, si petite nous semble-t-elle, est suffisante pour pratiquer ce pardon. Nous avons besoin de la foi, certes, mais nous avons aussi besoin de patience et nous avons aussi besoin d'obéissance. Tout ceci, donc, fait partie de la vie chrétienne ordinaire. Les effets du pardon peuvent être remarquables. Les effets du pardon peuvent être extraordinaires. Des changements radicaux peuvent se produire dans des vies. Il y a de nombreux témoignages de personnes dans des prisons qui avaient fait des crimes horribles et quand ils ont appris que les personnes, la partie qui avait été offensée, leur pardonnait, ça a tellement bouleversé leur vie, qu'ils se sont convertis. Le pardon fait des œuvres, est le fruit d'œuvres remarquables, extraordinaires. Mais si le pardon fait est quelque chose de tellement beau et de tellement grand, la pratique du pardon, elle n'a rien de remarquable, donc. Elle n'a rien d'extraordinaire. Ça fait partie de la vie normale. Et donc, peut-être en écoutant ce message, vous avez dit, bah, moi, je suis un peu frustré. Il y a telle chose. Voilà, donc Pascal n'a pas parlé. Ou, comme la dernière fois, de faire des erreurs. Le message n'est pas à la hauteur. Alors, soyez patient envers moi, pardonnez-moi, priez pour moi, pour que je fasse des progrès et que, avec l'aide de Dieu, on puisse tous avancer ensemble. Je voudrais, pour terminer, vous inviter à voir l'évangile de Luc, quelques chapitres, quelques pages avant, Luc chapitre 12, un encouragement à la persévérance dans le pardon, un encouragement à la persévérance dans le pardon, quand c'est trop, encore, il faut pardonner. Luc chapitre 12, versets 35 à 37. Que vos reins soient sains, que vos lampes soient allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir. Dès qu'il arrivera et frappera, heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, s'approchera d'eux pour les servir.
qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Donc, persévérons, veillons dans la vie chrétienne normale, faite de douleur chaque fois qu'on nous fait du mal. Le péché est là, et faite de pardon pour y répondre. Amen.